Aujourd'hui, à Washington.
Abdourahmane Dia en direct de Washington pour cette édition de 17h30 en universel. Nous sommes lundi 19 février 2018 au sommaire. En Centrafrique, une trentaine de corps repêchés à Bria, dans le centre du pays. Le dialogue politique s'ouvre officiellement ce lundi au Togo pour tenter de mettre un terme à 6 mois de crise. Les enseignants guinéens entament leur 2e semaine de grève. Le gouvernement menace d'opérer des coupes sur les salaires. Et ici aux États-Unis, des élèves ayant survécu à la tuerie dans un lycée en Floride prévoient de marcher sur Washington. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous en Centrafrique. Bria, dans le centre-est du pays, encore en proie aux violences. Une trentaine de corps ont été repêchés ces derniers jours dans 2 cours d'eau de la ville, selon des sources humanitaires plutôt. De Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Selon une source humanitaire contactée par VOA Afrique, au moins 19 corps sans vie ont été repêchés dans la rivière Lakoto et 13 autres dans le Marigo Pende. Il s'agirait tous des déplacés qui ont tenté de regagner leurs habitations, profitant du calme apparent qui règne depuis quelques semaines dans la localité. Les cadavres ont été vus, selon des témoins, dans le secteur de l'ancienne direction des mines au quartier Lassimi. D'autres sources ont évoqué cependant une dizaine de morts sans parler de tueries de masse. D'après une autorité locale de Bria, 2 journalistes européens en reportage et circulant sur la rivière Koto à Pirogue ont été interceptés et tabassés par des ex-silicats avant d'être relâchés. Leurs équipements de travail, caméras, photos et autres ont été détruits. Le député de Bria 1, Arsène Kongbo, qui mène actuellement une sensibilisation en faveur de la paix dans cette ville, confirme avoir été mis au courant de cette affaire, mais il n'a pas donné plus de précisions. Bria est l'une des villes de la République centrafricaine qui échappe encore au contrôle du pouvoir central. La situation humanitaire y est catastrophique, vu le nombre des déplacés internes, plus de 60 000. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Ouverture à Lomé du dialogue politique entre pouvoir et opposition. Après 6 mois de manifestations pour exiger des réformes constitutionnelles, les discussions vont durer 10 jours. On fait le point avec Anastasie Toudiech.
À la cérémonie d'ouverture, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a dit que la paix, la liberté et la stabilité du peuple togolais n'étaient pas négociables. Il a fait tout son discours en français pour être bien compris par tout le monde autour de la table. Une coalition de 14 partis d'opposition et le parti au pouvoir ont finalement accepté de s'asseoir autour d'une même table. Ce dialogue doit durer 10 jours. Il devrait aborder plusieurs sujets comme le rétablissement de la Constitution de 1992 qui prévoyait un maximum de 2 mandats présidentiels. Sur les réseaux sociaux et dans la rue, de nombreux Togolais sont sceptiques. Ils critiquent la tenue d'un énième dialogue dans un pays gouverné depuis plus de 50 ans par la seule famille Gnassingbé.
Anastasie Toudiech, nous y reviendrons donc sur ce dialogue politique au Togo dans notre partie magazine. Au Nigeria, les 5 agents de police qui étaient accusés d'avoir tué le fondateur de la secte Boko Haram en 2009 ont été réintégrés, c'est ce qu'a indiqué un porte-parole de la police nigériane. Selon lui, la demande de réintégration était accompagnée d'une décision de justice statuant qu'ils avaient été acquittés des accusations portées contre eux. Ces officiers étaient inculpés pour avoir tué Mohamed Youssouf, le leader du groupe Boko Haram, alors à l'époque une secte islamiste rigoriste, alors qu'il était en garde à vue en juillet 2009. Le pape François a accepté la démission d'un évêque nigérian contesté depuis plusieurs années par des prêtres et des fidèles de son diocèse dans le sud du pays. Dans un communiqué, le Vatican précise que le pape a dans le même temps nommé un administrateur provisoire pour ce diocèse. Monseigneur Peter Okpaleke, nommé en 2012, avait été accueilli avec hostilité par les prêtres locaux qui reprochaient au Vatican de ne pas avoir nommé un évêque originaire de leur diocèse pour des considérations ethniques. Au Niger, 2 journalistes de la radio Enfani, partenaire de VOA Afrique et un homme politique, ont été interpellés ce matin par la police judiciaire pour une affaire de propos ethnocentristes tenus sur les antennes de cette radio. Après des heures d'audition, ils ont été libérés mais doivent y retourner le mercredi prochain. Précision avec notre correspondant Abdoulrazak Idrissa.
Les deux journalistes, Grema Boukar, directeur général, et Moudi Moussa, rédacteur en chef de la radio Amfani, ont été auditionnés toute la matinée de ce lundi par des officiers de la police judiciaire de Niamey. Selon la radio Amfani, cette audition est en lien avec la diffusion sur ses antennes de propos ethnocentristes par le président du parti nigérien pour l'autogestion, par ailleurs conseiller du président de la République, Sanoussi Tambari Jakou. Ce dernier était d'ailleurs lui également dans les locaux de la police judiciaire. En début d'après-midi, ils sont ressortis. Selon le rédacteur en chef de la radio Amfani, contacté par VOA Afrique, il leur a été demandé de se représenter mercredi matin. La diffusion de ces propos a été suivie sur les réseaux sociaux, notamment par des messages haineux et ethnocentristes qui ont amené le président de la République à instruire le gouvernement pour tout mettre en œuvre pour identifier, poursuivre et réprimer les auteurs, co-auteurs et complices. Abdulrazak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
La France a accusé la Guinée équatoriale devant la Cour internationale de justice de vouloir paralyser la justice française dans l'affaire dite des biens mal acquis. Le vice-président équato-guinéen a été condamné par un tribunal parisien. La démarche de la Guinée équatoriale de saisir la Cour internationale de justice a pour but de ralentir, voire de paralyser, la procédure pénale lancée en France, a déclaré devant les juges Alain Pellé, membre de la délégation française. Environ 224 millions de personnes sont sous-alimentées à travers le continent africain. Selon les Nations Unies, le changement climatique et les conflits renforcent l'insécurité alimentaire. S'exprimant lors d'une conférence sur l'Afrique à Khartoum, organisée par l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, un responsable onusien a indiqué que cette situation a été un sujet de préoccupation alors que la population du continent devrait atteindre 1,7 milliard de personnes d'ici 2030. Au Mozambique, 14 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi par des montagnes de déchets transportées par des pluies torrentielles dans la capitale Maputo. À la suite de très fortes pluies, des monceaux d'ordures se sont abattus sur des habitations précaires dans un quartier de la banlieue de Maputo, tuant des habitants dans leur sommeil. 5 maisons ont également été détruites. Le père d'un Ivoirien de 8 ans blotti dans une valise pour passer la frontière espagnole en 2015 sera jugé demain. L'image avait choqué le monde entier. « Je vais à ce procès très confiant parce que je ne suis pas un trafiquant d'êtres humains. Je n'allais pas trafiquer avec mon propre enfant », a dit Ali Ouattara, 45 ans, peu à la veille de l'ouverture de son procès dans l'enclave espagnole au Maroc. Et puis au Botswana, un homme de 28 ans a été exécuté par pendaison dans la prison de haute sécurité de Gaborone. La précédente exécution remonte à mai 2016. Joseph Pony a été pendu après avoir été reconnu coupable du meurtre de sa petite amie et de son fils de 3 ans. Le président du Botswana, Ian Khama, qui doit quitter le pouvoir fin mars, a récemment réaffirmé son attachement à la peine capitale, au moyen, selon lui, de réduire la criminalité.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump est favorable à un renforcement du contrôle du passé criminel de ceux qui souhaitent acheter une arme à feu. C'est ce qu'a indiqué la Maison-Blanche aujourd'hui, quelques jours après une fusillade meurtrière dans un lycée de Floride. Jacques Aristide.
Tandis que les discussions se poursuivent et que des modifications sont envisagées, le président soutient les efforts pour améliorer le système fédéral de contrôle des antécédents, écrit dans un communiqué la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders. Il est notamment question d'un projet de loi bipartisan qui a été présenté pour améliorer la législation fédérale. Le FBI, la police fédérale, a reconnu avoir négligé des renseignements qui auraient pu permettre d'empêcher Nicolas Cruz, le jeune homme de 19 ans qui a tué 17 personnes dans son ancien lycée, de passer à l'acte. Pour le président Trump, c'est inacceptable. Sur Twitter, il a écrit que le FBI était trop occupé à tenter de démontrer une présumée collusion entre la Russie et son équipe de campagne pour la présidentielle de 2016. Quant aux élèves survivants de la fusillade, ils manifesteront le 24 mars à Washington et dans d'autres villes. Baptisée « Marche pour nos vies », le rassemblement appellera à un contrôle plus rigoureux sur les armes à feu, un débat récurrent aux États-Unis après chaque fusillade.
Enfin, un rapport interne publié ce lundi par Oxfam a révélé une mission humanitaire en Haïti entachée de nombreuses dérives. Un responsable reconnaît avoir payé des prostituées. D'autres employés sont accusés de harcèlement et d'intimidation, tandis qu'un témoin a été menacé physiquement. La première ministre britannique Theresa May a réagi, qualifiant ces allégations d'horribles et bien en deçà des standards que nous pouvons attendre des associations caritatives et ONG avec lesquelles le gouvernement britannique travaille. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Menerekiza.
Le Burkina Faso veut injecter plus de 154 milliards de francs CFA au plan d'urgence pour le Sahel en 2018. Ces fonds serviront à la mise en œuvre de politiques multisectorielles dans les régions et les zones en proie à des problèmes d'insécurité. Le gouvernement cherche aussi à renforcer sa présence dans les régions les moins développées du pays. En 2017, Ouagadougou a investi 81 milliards de francs CFA pour la construction d'infrastructures sanitaires et sécuritaires. Entre 2017 et 2020, le gouvernement prévoit de dépenser 455 milliards de francs CFA pour une réponse au double défi socio-économique et sécuritaire qui secoue le Sahel. Les dirigeants de la CDAO se sont donné rendez-vous à Accra le 21 février pour accélérer le processus de création d'une monnaie unique. Les présidents Nana Akufo-Addo du Ghana, Mohamedou Bouhari du Nigeria, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Mahamadou Issoufou du Niger, qui constituent la task force, vont adopter une nouvelle feuille de route pour la mise en œuvre de ce programme. Plusieurs experts régionaux ont rédigé un document à soumettre aux quatre chefs d'État. La CDAO compte actuellement 8 monnaies à son sein et espère mettre en place définitivement sa monnaie unique d'ici à 2020. L'Égypte et Israël ont conclu un contrat de fourniture de 64 milliards de mètres cubes de gaz naturel pour 15 milliards de dollars. Il sera extrait des champs offshore, Léviathan et Tamar en Méditerranée. Le consortium comprenant Delek, le groupe américain Noble Energy et la compagnie égyptienne Dolphinus assurera cette fourniture.
C'est l'heure de retrouver Yacouba Ouédraogo pour les sports. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
L'arbitrage vidéo sera utilisé samedi à l'occasion de la Supercoupe de la CAF.
Tout à fait, Abdourahman, la Supercoupe de la CAF qui oppose les Marocains du Wydad Casablanca aux Congolais du TP Mazembe. L'assistance vidéo à l'arbitrage aurait dû même être expérimentée lors du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018, mais l'expérience est transformée en une simple répétition générale. Les débuts de cet arbitrage en Bundesliga en Allemagne donc et en Serie A en Italie ont été marqués par quelques confusions et de longues interruptions du jeu liées justement à l'inexpérience des équipes arbitrales.
Plus de 80 candidatures pour le poste de sélectionneur en Guinée.
Ah oui, la succession est de l'AP Bangoura. Limogé après le CHAN 2018 est ouverte et ce ne sont pas les candidatures qui manquent, Abdourahman. La FEGIFOOT, Fédération Guinéenne de Football, dit avoir reçu plus de 80 dossiers. D'après la presse locale, des techniciens africains, à l'instar de l'Ivoirien François Zawi, ont postulé, tout comme Diambobo Baldé, ancien capitaine du Sili National. L'Italien Marco Simone a aussi postulé. Les Français Roger Lemaire et Michel Dussier ont également envoyé leurs dossiers, de même que les Belges Hugo Bros et Paul Put.
Je suis surpris de ne pas avoir notre collègue Georges Léonard Sagnon sur cette liste, mais bon.
Pourquoi pas?
Donc justement, Paul Put, vous parliez de lui, a démissionné de son poste d'entraîneur de l'équipe kenyane.
Oui, Abdourahman, l'annonce a été faite aujourd'hui par la Fédération kenyane de football qui avance des raisons personnelles au technicien belge 2 mois seulement après sa prise de fonction. Âgé de 61 ans, Paul Put a amené le Kenya jusqu'à la victoire de la Coupe CECAFA des Nations en décembre. Le Kenya est actuellement 3e du groupe F dans les éliminatoires de la CAN 2019 et va rencontrer le Ghana, leader de la poule, le 7 septembre à Nairobi.
Enfin, en Europe, les matchs aller des 8e de finale de la Ligue des Champions se poursuivent demain.
Un choc retient toutes les attentions. Chelsea FC Barcelone, un choc qui semble se résumer en un exploit ou la porte à la fin de la saison pour le technicien italien de Chelsea, Antonio Conte. Mission moins compliquée a priori pour Jupp Heynckes, l'entraîneur du Bayern Munich, qui dit avoir son effectif quasiment au complet pour la réception de Besiktas.
Merci beaucoup, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. Au Togo, c'est parti pour 10 jours de discussion entre le pouvoir et l'opposition. Au cours de cette première journée du dialogue politique, les participants planchent sur les mesures d'apaisement face à la crise sociopolitique dans le pays. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Enfin, le dialogue politique s'ouvre à Lomé après plus de 6 mois de crise marquée entre autres par des pertes en vies humaines. Sous la facilitation du Ghana, le parti au pouvoir et la coalition des 14 partis de l'opposition se retrouvent autour de la même table pour des discussions. Le chef de l'État ghanéen, qui a présidé l'ouverture de ces pourparlers, a appelé à une prise en compte de l'intérêt des Togolais. Nana Akufo-Addo.
Un dialogue qui va faire que le peuple togolais et leurs intérêts sont bien pris en compte dans tout ce qui est fait ici. Leur intérêt pour avoir un État démocratique, un État régi par l'État de droit, un État ouvert qui permette le peuple de s'exprimer librement et de choisir leur dirigeant dans une manière transparente et libre.
Estimant que les racines de la crise togolaise remontent à janvier 1963, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, a appelé le pouvoir de Lomé à prendre ses responsabilités.
Notre participation aux présentes assises demeure liée à l'achèvement des mesures d'apaisement convenues. Le peuple togolais, meurtri, excédé, mais résolu et déterminé, est à l'écoute. Il est debout et il attend. Il nous attend.
Charles Kondi Agba, le président du comité des sages de l'Union pour la République unie, a réitéré l'esprit d'ouverture de son parti.
Nous venons à ce dialogue dans un esprit d'ouverture, parce que nous savons que notre intérêt à nous tous Togolais est d'arriver à résoudre dans la tolérance et le respect mutuel tous les griefs, quelle que soit leur nature.
Les acteurs politiques togolais se disent excédés par la crise et souhaitent que ce dialogue puisse aboutir à des résultats concrets.
Que par ce dialogue, que nous puissions aboutir à des solutions durables à cette crise, à recyclage quasi permanent.
Tout le monde doit laisser tomber les masques et parler à cœur ouvert, mais trouver des solutions qui sont dans l'intérêt de toute la population togolaise.
Nous espérons que les choses se passeront bien et que le peuple togolais s'en sortira gagnant.
Les deux parties se donnent une dizaine de jours pour examiner les 12 points inscrits à l'ordre du jour. Le défi principal de ce dialogue est l'élection présidentielle de 2020 avec ou non la participation de l'actuel président de la République togolaise, Faure Gnassingbé. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
La grève des enseignants en Guinée entre dans sa deuxième semaine. Des élèves ont manifesté ce lundi à Conakry pour exiger la reprise de cours, tandis que le gouvernement menace de couper les salaires des enseignants grévistes. Reportage à Conakry, Zakaria Kamara.
Le gouvernement guinéen parle de démarches, d'explications, des règles régissant le dialogue social, mais aussi de sacrifices consentis par l'ensemble des partenaires sociaux pour aboutir à des avancées majeures. Dans une communication publiée dimanche, il appelle à la fin de la grève avant de menacer de ne pas payer le salaire de tout enseignant qui persiste à ne pas se rendre en classe. Ce matin, toute tentative de reprise a été repoussée par des manifestants à Conakry. Le lycée Bouakar Biro est l'une des rares écoles où les cours ont été dispensés, mais après des heures, avec les défenseurs de la grève, Alexandre, élève de terminale.
Ceux qui n'étudient pas, parfois, ils se mettent contre nous, ils se fâchent, ils viennent pour nous perturber. On a sensibilisé nos camarades d'élèves, on leur a dit on sera confronté à tout problème. Donc attendez-vous à tout. On savait quel que soit un jour, ils pouvaient y arriver. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Ils sont venus, on leur a repoussé, ils sont repartis. Et les cours ont continué.
C'est le proviseur du lycée qui a demandé aux élèves de venir suivre les cours. Alassane Bereté ne semble pas partager le mot d'ordre de grève.
S'ils ont des enfants en Hongrie, en Espagne, en Hollande, qu'ils laissent les enfants des autres étudier. Vous voyez ici des vieilles qui sortent le matin à 5h du matin. Il y a des vieux au champ à l'heure où je vous parle. Ce sont ces enfants à qui nous avons au lycée ici. Comment un seul individu est perturbé l'avenir et ces enfants-là.
Le gouvernement avait annoncé un dispositif de sécurisation des écoles et menacé de traduire devant la loi toute personne interpellée dans une tentative de perturbation des établissements scolaires. Dans plusieurs endroits de la capitale, des jeunes manifestants ont utilisé des pierres contre les éléments des forces de l'ordre. Selon le porte-parole de la gendarmerie nationale, un gendarme a été tué. Conakry, Zakaria Camara, VOA Afrique.
On passe maintenant au Burkina Faso qui a perdu en Idrissa Ouédraogo, un cinéaste de renommée internationale. À Ouagadougou, les témoignages sur cet habitué du FESPACO, deux fois lauréat de l'étalon du Yenenga, sont unanimes sur son talent. Reportage Zoumana Wanogo.
Un monstre sacré s'en est allé, un baobab est tombé, un monument du cinéma africain s'est écroulé. Tels sont, entre autres, les qualificatifs des témoignages concernant Idrissa Ouédraogo. Alors, quels étaient les rapports entre le monstre sacré et les femmes dans le cinéma? Écoutons Azaratou Ouédraogo, chargé de production des films du dromadaire.
Idrissa et les femmes dans le cinéma. Je n'ai jamais travaillé avec Idrissa, mais en tant qu'aujourd'hui chargé de production, Idrissa est une référence en matière de production cinématographique. Et je sais aussi qu'il a coaché d'autres femmes. Il a aidé d'autres femmes à tourner, notamment Apolline Traoré. Je vois aussi que dans ses films, il donne une image positive de la femme. Quand je prends l'exemple de Tilaï, le film de Idrissa Ouédraogo qui a remporté le talent, il parle de la violence faite aux femmes. L'actrice principale, on va dire, qui a été mariée de force après le départ de son mari et qui a essayé malgré tout de se rétablir dans ses droits. Donc Idrissa, il a participé, on va dire, à la promotion de la femme dans le cinéma.
Source d'inspiration, Idrissa Ouédraogo l'aura été pour beaucoup de jeunes dans le domaine du cinéma, suivant le témoignage de Charles-Auguste Koutou, plus connu sous le nom de comédien Pape Diop.
C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de travailler avec lui, mais vraiment une figure emblématique du cinéma au Burkinabé que j'ai connu depuis mon bas âge, qui faisait figure de modèle et qui fait toujours figure de modèle et qui fera toujours figure de modèle, je pense. Et vraiment, c'est dommage que au moment où on pensait qu'il était en train de vouloir faire la consécration de ses œuvres, qu'il disparaisse aussi brutalement, qu'on l'avait ainsi fait. On ne peut rien contre. Tout ce qu'on nous reste à faire, c'est de garder en lui le caractère immortel du métier qu'il défendait.
Issa Ouédraogo est un comédien. Il vient juste de manquer la belle occasion de travailler avec Idrissa Ouédraogo sur un film. Suivons son témoignage.
Il m'a remis le scénario rien que la semaine passée. Discuté après, mais malheureusement, Dieu a fait sa volonté. C'est un scénario, le rêve de Sita. Voilà, donc j'avais commencé à lire, j'avais pas pu parcourir tout, mais bon, c'est un projet qu'il avait, qui lui tenait à cœur. Voilà, donc je le côtoyais. Ce que je retiens de l'homme, c'est vraiment quelqu'un qui est rigoureux dans son travail. Parce qu'avec les comédiens, par exemple, Idrissa réussissait à te faire sortir de tes tripes pour donner le meilleur de toi-même.
Ce soir, à 20h, un grand hommage sera rendu à Idrissa Ouédraogo par le monde du cinéma burkinabé. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Ici aux États-Unis, un mouvement estudiantin se met en marche pour exiger un contrôle plus strict sur les armes à feu. Des élèves survivants de la fusillade de Floride vont manifester fin mars à Washington. Baptisée « Marche pour nos vies », elle vise à demander une loi efficace pour régler la violence armée généralisée. Eric Munirakiza a joint le professeur de sciences politiques et d'économie à l'université de Princeton, Leonard Wanchekon.
Avoir des enfants de 14 ans, 16 ans, maximum 18 ans, parler avec autant de passion, avec autant de clarté sur cette question-là, ça ne peut pas ne pas avoir un effet. Déjà, on a remarqué qu'un des sponsors conservateurs des Républicains, M. Hoffman, je crois, a décidé de suspendre le soutien financier aux candidats républicains tant aussi longtemps qu'ils ne vont pas prendre la décision de bannir les armes automatique pour le public. Et il y a aussi le président Trump aujourd'hui, ce matin, qui parle d'être plus ou moins favorable au background check, qui était un peu comme un tabou, quoi, donc depuis le début de son mandat. Donc je crois que déjà ça a commencé à avoir un effet, et on voit que la marche du 24 mars, que les jeunes là sont en train d'organiser, ça a fait énormément de pression, quoi, donc sur la classe politique en général et sur les républicains en particulier.
Cette marche du 24 mars est organisée par des étudiants survivants de la fusillade. Est-ce que vous pensez que d'autres étudiants vont se joindre à ces survivants?
Absolument, absolument, parce que cet événement-là a bouleversé le pays dans son ensemble. Hein. Donc, ce n'est plus une affaire de la Floride, c'est une affaire de Connecticut, avec la fusillade qui a eu là-bas, avec Colorado, avec un peu partout. Et puis, le problème, c'est que tout ceci, ça défie la logique, la plus élémentaire, quoi, parce qu'il n'y a aucune justification possible de permettre aux gens d'acheter des armes de guerre. Donc, dans une population, dans un pays où il y a la police, il y a l'armée, où il y a l'état de droit. Ce n'est pas possible. Je crois que les jeunes finiront par balayer donc, la classe politique, notamment les plus radicaux sur cette question des armes.
Ce n'est pas la première fusillade qui bouleverse l'Amérique. C'est une situation récurrente, mais rien n'a jamais changé.
Il faut toujours la goutte d'eau, là. En fait, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais c'est toujours ça dans toutes les situations politiques. La première fois, c'est rien. La deuxième fois, c'est rien. La troisième fois, bon, ça s'accumule. Voilà, c'est ça. C'est même parce qu'il n'y a rien eu qu'il n'aura rien. Il faut être vraiment optimiste. Et il faut penser que les gens, quand même, sont animés de la raison, quoi. Ça dit, les gens vont se dire, bon, voilà, aujourd'hui, c'est en Floride, demain, c'est nous. Et puis, bon, il y a beaucoup de cas similaires, hein, de fusillades qui n'ont pas eu autant d'attention. Ce que j'ai trouvé vraiment formidable, c'est vraiment le discours de ces enfants-là. Ça dit la maturité, la profondeur et la détermination qui les animait. Je trouvais ça extraordinaire. Et la jeune fille Emma Gonzalez qui avait parlé hier, ça m'a vraiment rassuré, quoi, quand elle avait venu de ce pays. Il y a de plus en plus de pression parmi les jeunes.
C'était l'analyste politique Leonard Wanchekon.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Se quitte sur ce titre Wow, signé Viviane. C'est un choix de Georges Léonard Sagnon qui a réalisé cette édition. À la console, il y avait Joe Gill, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. dans 30 secondes, un autre point sur l'actualité avec Henri Francisque. Au revoir.
VOA Afrique, les infos.